Merci beaucoup Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie encore Pierre Laury au premier chef et tous les amis de l'association des amis de Stella et Henri Corbin pour cette invitation qui me fait honneur et grand plaisir de parler une deuxième année, puisque j'étais là l'année dernière, dans le cadre de cette journée d'études. Le chiisme imamite ou duodécimain, comme vous le savez sans doute, principale branche minoritaire de l'islam, est axé sur la vénération d'une figure, qui est à la fois une personne et une hypostase, figure qui est celle de l'imam. Selon une formule que j'emprunte à Mohamed Ali Amir Mouezi, le chiisme est la religion de l'imam, comme le christianisme est la religion du Christ. Alors cette formule comparative nous fait déjà comprendre que l'imam est une figure à la fois humaine et divine et que l'amour pour lui est au centre de la foi chiite. Le terme arabe imam signifie originellement le guide, le chef, au sens à la fois politique et religieux. Pour les chiites, l'imam est le successeur du prophète. Il est impeccable et infaillible, marsoum, comme ce dernier, le prophète. Il a pour mission de conserver la loi révélée dans sa lettre et dans son esprit, c'est-à-dire dans son aspect exotérique, son zahir, et son aspect ésotérique, son batin, selon une perspective duelle qui a été d'abord mise en lumière par Henri Corbin. Le chiisme duodécimain connaît 12 imams successifs, le dernier étant entré en occultation il y a maintenant plus de 1000 ans. Le premier imam, Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, y fait l'objet d'un culte particulièrement fervent, comme dans toutes les autres branches du chiisme d'ailleurs. Ali est la figure autour de laquelle se développe toute la pensée chiite, qu'elle soit théologique, rationnelle, philosophique, mystique, et la figure autour de laquelle se déploie la notion d'amour dans ses différentes perspectives. La figure de l'imam possède exemplairement une double dimension, exotérique et ésotérique, sensible et spirituelle, historique et métaphysique. Et il en va de même de l'amour du croyant pour lui. L'exotérique de cet amour, ce sont les témoignages ostensibles manifestés par les fidèles au quotidien et lors des grandes occasions comme les visites rendues aux tombes ou les pèlerinages sur la tombe des saints. Il se manifeste par des déclarations, des pleurs, des prières, des dons, toute une piété populaire susceptible d'une étude anthropologique, comme l'a d'ailleurs mené Sépidé par Sapajou. Son intérieur ou son ésotérique, la dimension intérieure ou ésotérique de cet amour, c'est la connaissance et la méditation de l'imam comme homme parfait, le désir de s'assimiler à lui dans son impeccabilité et son infaillibilité. Un effort exprimé au plus haut point dans la philosophie et la gnose chiite, objet d'études plus textuelles que observationnelles. Christian Jambé vous dira mieux que moi comment, pour le philosophe Molla Sadra au XVIIe siècle, l'imam devient le maître intérieur de la gnose ou de la connaissance salvatrice, le irfan, le représentant de l'intellect divin, al-aql. Pour les simples croyants comme pour les savants gnostiques, l'imam est la figure sotériologique par excellence. La fidélité et le salut passent nécessairement par sa connaissance et son amour parce qu'il est lui-même l'ami ou l'allié de Dieu, Wali Allah. La tradition canonique du hadith imamite, si monumentale et si distincte du hadith sunnite, atteste de ce rôle. Donc quelques traditions canoniques sont affichées. Cette parole d'abord attribuée au prophète Mohammed, « Celui qui aime Ali m'aime, celui qui m'aime aime Dieu, celui qui aime Dieu ne connaît pas le châtiment. » Une déclaration du cinquième imam, Mohammed al-Baqir, ensuite, « L'amour de Ali, c'est la foi, la haine à son encontre, c'est l'impiété ou l'infidélité kufr. » Enfin, ce hadith Qudsi, donc un hadith Qudsi est attribué à Dieu en dehors de la parole révélée dans le Coran, s'adressant au prophète, « Ô Mohammed, si ta communauté s'était rassemblée autour de l'amour de Ali ibn Abi Talib, je n'aurais pas créé l'enfer. » Alors à noter que le terme arabe utilisé pour dire l'amour de l'imam, ou l'amour de Dieu pour l'imam, ou l'amour de l'imam pour Dieu, est « hub » ou « mahabba », terme d'une racine qui est attestée dans le Coran pour signifier la relation entre Dieu et les croyants, C'est le verset 54 de la sourate 5. Dieu fera bientôt venir des hommes, il les aimera et ils l'aimeront. Il existe un autre terme arabe qui est celui de ishq, qui signifie plutôt l'amour-passion, qui est affectionné par les mystiques soufis, mais qui est soigneusement évité par la tradition imamite. Alors, selon la doctrine chiite ancienne, si l'amour de Dieu est impossible sans l'amour de l'imam, c'est d'abord parce que l'essence de Dieu est foncièrement inconnaissable, inappréhendable, inaccessible. Cette théologie négative ou apophatique est solidaire d'une imamologie théophanique, c'est-à-dire que l'imam est la manifestation humaine des attributs divins, et selon la belle expression d'Henri Corbin, il est la face divine montrée à l'homme et la face que l'homme montre à Dieu. La tradition rapporte ainsi qu'un disciple interrogea le sixième imam, Ja'far al-Sadiq, sur la possibilité que les croyants voient Dieu le jour de la résurrection. Après une longue hésitation, l'imam Ja'far finit par répondre à son disciple « Les croyants le voient déjà dans ce monde-ci, avant le jour de la résurrection. Ne le vois-tu pas toi-même en ce moment même » sous-entendu en face de toi. L'imam est ainsi la manifestation humaine sensible du divin à travers laquelle Dieu peut être vu et aimé. Mais comme le montre l'hésitation de l'imam à répondre à son disciple, cette croyance ne devait pas être divulguée sans précaution et ne pouvait pas l'être sans danger. Il ne faut pas négliger le rôle du prophète dans cette doctrine. Il est celui qui apporte la loi exotérique, mais aussi celui qui initie et désigne le premier imam. Selon la conception chiite de l'histoire sainte, chaque prophète eut un imam suivi d'une lignée d'imams jusqu'au prophète suivant. Mohammed est le sceau des prophètes, Khatam al-Anbiya ou Khatam al-Nabiyin, et Ali est le premier de la dernière lignée d'imams. Il est le sceau des amis ou des alliés de Dieu, Khatam al-Awliya, au sens absolu. Bien que le douzième imam soit le sceau des amis de Dieu au sens relatif de l'alliance divine suite à la prophétie de Mohammed. Mais précisément, s'agissant de ce dernier cycle, le prophète Mohammed est le maître de l'imam Ali, mais l'imam est la substance même du message du prophète. L'imama est l'ésotérique de la prophétie qui en est l'exotérique. Et la loi révélée a pour sens intérieur caché l'obligation d'aimer l'imam et de le suivre, comme le montre l'exégèse imamite de nombreux versets du Coran qui y retrouvent des allusions à Ali. L'obéissance au prophète doit donc conduire à l'amour de l'imam et l'amour de l'imam à l'amour de Dieu. Les sources chiites sur la vie du prophète Mohammed, ce qu'on appelle la Sira Nabawiya dans le sunnisme, placent ainsi au centre de cette vie l'amour de Ali et des gens de la sainte famille, Ahl al-Bayt. Ali fut d'abord le fils adoptif du prophète Mohammed, puis le premier homme mâle converti à la nouvelle foi. Il devint le gendre du prophète en épousant sa fille Fatima et le père de sa seule descendance mâle dans les personnes d'Al-Hassan et Al-Hussein, qui seront les deuxième et troisième imams du chiisme duodécimain. D'innombrables traditions attestent de l'amour du prophète pour Ali, Fatima et ses deux petits-fils, de l'intimité exclusive de Mohammed avec Ali dans une relation d'osmose, notamment exprimée dans un fameux hadith du prophète « Ali est de moi et je suis de lui »« Ali minni wa ana minhu ». Selon un récit également connu dans les sources sunnites, le prophète rassembla les musulmans au retour de son dernier pèlerinage à la Mecque. Il prit le bras de Ali et déclara devant tous « Celui dont je suis le maître, Maula, Ali est son maître. Ô Dieu, sois l'allié ou l'ami, le Wali, de qui est son allié ou son ami, et sois hostile ou ennemi à qui lui est hostile ou ennemi. » Enfin, les sources chiites rapportent que sur son lit de mort, le prophète Mohammed appela Ali pour lui communiquer son dernier souffle et expirer entre ses bras. une place occupée dans les sources sunnites par la jeune épouse préférée du prophète Aïcha. Cet amour partagé entre le prophète et Ali avait bien sûr un aspect exotérique et une dimension ésotérique. Donc son aspect exotérique, c'est cette relation de proximité, qaraba, qui faisait de Ali, pour les chiites, le successeur désigné du prophète à la tête de la communauté. La dimension ésotérique de cette relation, c'est le partage ontologique d'une lumière divine et la transmission du sens spirituel ésotérique de la révélation. Mais le drame de l'histoire chiite, si l'on revient au plan historique, c'est le désamour des musulmans pour Ali après la mort du prophète. Contre toute attente, Ali fut écarté de la succession par Abu Bakr, Omar, puis Uthman successivement. Le décès de son épouse Fatima, la fille du prophète, peu après son père, le laissa particulièrement isolé. Son court règne comme quatrième calife fut une succession de guerres civiles contre des compagnons du prophète, de puissants gouverneurs locaux et même d'anciens partisans, les Kharijites, dont le soutien fervent s'était renversé en une haine farouche jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne à assassiner Ali. Après sa mort, les imams descendants de lui n'ont cessé de subir les persécutions des califes. Le meurtre du troisième imam, Al-Hussein, et des siens à Karbala, a achevé de marquer la vénération chiite de l'imam d'un profond dolorisme. D'où il convient de souligner que le chiisme originel n'est pas seulement une religion du pur amour spirituel, comme le voulait Henri Corbin. À l'alliance ou l'amour de l'imam, appelé walaya, qui signifie aussi l'alliance ou l'amitié divine, enfin, l'amitié entre Ali et Dieu, donc à l'alliance ou l'amour de l'imam, répond la dissociation ou la haine de ses ennemis, appelée bara'a. Et cette haine des ennemis de l'imam, à commencer par les premiers califes, est aussi sacrée que l'amour de celui-ci. Selon de nombreuses traditions imamites, la foi est indissociablement l'amour de l'imam et la dissociation à l'égard de ses ennemis. Alors si le chiisme, à l'instar du christianisme, se fonde sur l'amour d'un homme divin dont la personne historique fut faible, victime d'injustice et haï autant qu'aimé, le chiisme ne prône pas l'amour des ennemis ou de tous les hommes. Bien plutôt, il est structuré par un axe de pensée dualiste où dominent les oppositions amis-ennemis, alliance-dissociation, amour sacré, haine sacrée. Ainsi, dans les pratiques des croyants, l'amour et la compassion témoignés aux imams s'accompagnent, presque toujours, de malédictions adressées à leurs ennemis historiques. Mais encore, l'amour de l'imam lui-même n'est pas dénué d'ambivalence sur le plan éthique et sotériologique. En effet, il est rapporté de l'imam Ali cette parole « Deux types d'hommes se damnent à mon sujet, ceux qui m'aiment à l'excès et ceux qui me haïssent. » Il y aurait donc un amour de l'imam qui sauve de tout mal et un amour de l'imam qui égare sur la voie même du salut, un amour qui, péchant par excès, finit par rejoindre son contraire, c'est-à-dire la haine de l'imam. Dans l'histoire du chiisme, cet amour excessif et ruineux pointe vers les chiites que les ouvrages hérésiologiques, d'ailleurs sunnites aussi bien que chiites, qualifient d'exagérateurs, roulates. Coupable d'exagération ou d'outrance doctrinale rouloue. Leur tort officiel, d'après ces ouvrages hérésiologiques, sont de diviniser l'imam, de le placer au-dessus du prophète, de professer des thèses hostiles à l'islam majoritaire ou de négliger les obligations rituelles, prières, jeûnes, etc. Alors en réalité, comme l'a montré Mohamed Ali Amir Mouezi, toutes les positions attribuées à ces exagérateurs faisaient partie de l'enseignement, considéré comme authentique, des imams eux-mêmes. Toutes sauf une, qui est l'antinomisme, ibaha, c'est-à-dire l'abandon des prescriptions de la loi au motif que la connaissance de son sens ésotérique rendrait inutile l'observance de sa forme exotérique. Ainsi, pour certains chiites, la connaissance de l'imam dispenserait de l'exercice de la prière parce qu'elle constituerait le sens spirituel secret de cette obligation de la prière. Le sixième imam, Ja'far al-Sadr, dans un long discours à l'un de ses disciples, un texte qui a été analysé et traduit par Mohamed Ali Amir Mouezi dans un article récent, le sixième imam s'élève contre cet antinomisme. Il affirme que les personnes sacrées des imams constituent en effet le sens ésotérique des devoirs cultuels, mais que leur connaissance, et par conséquent leur amour, ne dispense pas d'accomplir ces devoirs, parce que l'ésotérique de la loi est inséparable de son ésotérique. De même, les imams réprouvèrent certains disciples comme exagérateurs, roulat, non pour avoir propagé des croyances ou des traditions fausses, mais pour avoir répété publiquement des croyances devant rester secrètes, réservées aux initiés, comme l'attribution à l'imam de caractère divin. Alors, il me semble que ces deux formes d'exagération doctrinale, avérées par la tradition chiite, le comportement antinomiste et la divulgation des vérités initiatiques, s'expliquent tous deux psychologiquement et spirituellement, par un amour immodéré, incontrôlable, de ses disciples pour les imams. Ces exagérateurs chiites présentent ainsi certaines similitudes troublantes avec les légendaires poètes courtois de la tribu des Banu Uzra, comme le fameux Majnoun de Leïla, qui transgressaient les règles de bienséance tribale en déclamant publiquement leur amour, se condamnant par là à l'exclusion sociale et à la perte de l'aimé. Et de même qu'il y a un amour excessif à l'égard des imams, il peut y avoir une haine excessive à l'égard de leurs ennemis en raison justement de cet amour excessif pour eux. Ainsi, l'insulte aux compagnons du prophète, Sab Sahaba, fut souvent condamnée et interdite en milieu chiite comme relevant de l'exagération, alors même qu'elle se fonde sur la tradition originelle, sans doute parce que cette pratique compromettait et compromet encore la sécurité, l'image des chiites en milieu musulman majoritairement sunnite, le sunnisme dans lequel les compagnons du prophète, à commencer par les premiers califes, sont au contraire très aimés. On comprend que de telles attitudes, causées par un amour immodéré pour l'imam, aient pu mettre la communauté et même les imams en danger, en donnant aux chefs de l'islam officiel des motifs de persécution. Si la frontière est donc poreuse entre le chiisme dit modéré, qui prend surtout forme après la période des imams historiques, donc depuis l'occultation du 12e imam, et le chiisme dit exagérant, eh bien c'est que la frontière est naturellement fine entre l'amour pur et l'amour fou, en l'occurrence entre un amour de l'imam qui définit la foi et assure le salut, et un amour de l'imam qui dénature la foi, ruine le salut du croyant et compromet la religion tout entière. L'amour de l'imam et sa possible dérive sont une préoccupation majeure de ceux que l'on appelle les gnostiques chiites, les urafa, des penseurs qui conjuguent la tradition imamite originelle avec la philosophie d'origine grecque et la mystique soufie. Alors j'évoquerai deux d'entre eux qui sont parmi les plus fameux et qui ont tous deux été redécouverts par Henri Corbin, Hafez Rajab el-Bursi, mort après 1410, et Saïd Haider Amoli, mort après 1385. Tous deux ont pu être accusés d'exagération, roulou, à cause de leurs œuvres dans lesquelles ils exaltent la dimension théophanique de l'imam, et sans doute parce que, ce faisant, ils remettaient en question la prétention des juristes théologiens, les fuqaha, à représenter l'imam durant son occultation. L'influence du soufisme et de la philosophie amenait aussi ces penseurs à adoucir les aspects les plus dualistes de la doctrine, voire à sublimer la haine des ennemis originellement liée à l'amour des imams. Ces gnostiques, pris en quelque sorte entre le marteau des juristes théologiens et l'enclume des chiites exagérateurs, les roulates, se sont employés à distinguer le véritable amour de l'imam de son excès ou de sa déviance, comme de son défaut ou de son ignorance. Alors Hafez Rajab el-Bursi, qui s'était probablement converti au chiisme depuis le sunnisme, fut persécuté et banni de la ville chiite irakienne de Hilla, au motif de son exagération doctrinale par ses propres coreligionnaires chiites. Son ouvrage majeur, les Orients des Lumières de la Certitude sur les réalités secrètes du prince des croyants Ali, Masharek Anwar al-Yaqin fi Haqa'iq Asrar Amir al-Mu'minin, en donne à la fois la raison et le témoignage de ce bannissement. Donc je le citerai directement et un peu longuement. Dans sa conclusion, d'abord, il confesse ceci. L'envieux et le blâmeur se sont rangés du côté des haineux pour me couper les voies de l'amitié et de la fraternité, alors que je n'étais imputable d'aucun vice dans la connaissance, ni d'aucun péché dans l'amitié, sinon mon amour pour Ali et ma divulgation de ses secrets. Si c'est là le péché dont on m'accuse, si c'est là ce qui me vaut des tourments, eh bien comme c'est beau. Un tel péché est la bonne action suprême et la voie du salut. Un tel tourment est plus doux que le souffle de vie pour le mourant. De ce péché, je ne me repens pas, et de ce vice, je ne reviendrai pas. Mais je dirais, comme le poète Qais, qui est le plus fameux des poètes uzrites, qui est le Majnoun de Leïla, « Je me repens à toi, Dieu miséricordieux, de mes péchés innombrables, mais de ma passion pour Leïla et de mon renoncement à elle, je ne me repens pas. » Alors Boursi se justifie en affirmant que le Seigneur Très-Haut et le prophète maternel, Nabi al-Ummi, alias Mohammed, sont ceux qui aiment le plus intensément Ali, ceux qui connaissent le mieux le maître, al-Mawla, et l'ami, al-Wali. Mais à l'instar du poète Huzrit, Boursi accepte volontiers de subir les conséquences de ses déclarations d'amour spirituel pour Ali. Quand il écrit, je cite, « Je m'attachais à l'isolement et à la solitude dans l'intimité du réel divin, ainsi qu'il est le plus juste, car il n'est rien de bon dans la connaissance des hommes, selon les mots du prophète et intercesseur, donc un hadith de attribué à Mohammed, tout le bien est dans l'isolement, tout le salut est dans la solitude. » Et Boursi de conclure par la formule canonique, « La foi n'est rien d'autre que la connaissance et l'amour de Ali, celui qui connaît Ali connaît Dieu. » Dans son livre, notre gnostique insiste longuement sur la fonction sotériologique de l'amour de Ali. Il écrit, je vérifie que je sois. De même que la profession de l'unicité divine, al-tawhid, qui est le monothéisme même, n'a pas de contrepartie ou d'équivalent en religion, de même l'amour de Ali, quand il est mis dans la balance du jugement dernier, al-mizan, n'est diminué par rien. Quand l'amour de Ali est dans la balance, il n'est aucune mauvaise action avec lui. Mais s'il n'y est pas, il n'est aucune bonne action dans la balance. Car en réalité, les bonnes actions ne sont que l'amour pour lui et les mauvaises actions ne sont que la haine contre lui. Selon un hadith du prophète, l'amour de Ali est une bonne action que ne saurait atteindre aucune mauvaise action. La haine contre Ali est une mauvaise action que ne saurait racheter aucune bonne action. Boursi semble même cautionner l'antinomisme au nom de l'amour de Ali quand il cite ce hadith Qudsi attribué à Dieu, empreint du dualisme chiite originel, que vous voyez maintenant affiché. Donc hadith Qudsi, Dieu dit « Je fais entrer au paradis celui qui a obéi à Ali, même s'il m'a désobéi. Et je fais entrer en enfer celui qui lui a désobéi, même s'il m'a obéi. » Et Boursi de commenter ainsi. Car en réalité, l'obéissance à Dieu, c'est l'amour de Ali, associé à toutes les actions. Ainsi, celui qui aime Ali obéit déjà à Dieu, et celui qui obéit à Dieu est sauvé. Celui qui aime Ali est donc sauvé. Sache que l'amour de Ali, c'est la foi, et que la haine contre lui, c'est l'impiété. Il n'y a finalement parmi les hommes que ceux qui aiment Ali et ceux qui le haïssent. Qui l'aime n'est imputable d'aucune mauvaise action, n'est débiteur de rien, et qui n'est débiteur de rien a le paradis pour demeure. Qui le hait est dénué de foi, et qui est dénué de foi, Dieu ne le regarde pas, son obéissance au devoir est la désobéissance même. L'ennemi de Ali est donc damné, même s'il vient au jour du jugement les mains pleines de bonnes actions du culte. L'ami de Ali, lui, est sauvé, même s'il s'est vautré dans le péché jusqu'aux oreilles. Fin de citation. On ne saurait, à mon avis, s'exposer plus franchement aux griefs d'exagération. Bolsi est pourtant fidèle à la doctrine originelle imamite quand il écrit ce qui suit. Dieu envoya tous les prophètes messagers pour qu'ils appellent à lui, qu'ils annoncent et prêtent foi en Mohammed, qu'ils s'attachent fermement à l'amitié divine, la walaya de Ali. Puis Dieu envoya Mohammed et fit descendre sur lui la Fatiha, la première sourate du Coran, où il plaça son ami Ali à un rang élevé en disant, verset 6 de la première sourate, donc la Fatiha, « Dirige-nous dans le chemin droit, à Sirat al-Mustaqim. » Le chemin droit, dit Bolsi, qui suit ici d'innombrables traditions imamites, le chemin droit désigne l'amour de Ali. Dieu ordonna donc à son prophète de prier pour que sa communauté se guide sur l'amour de Ali. Puis Dieu confirma cela en disant, dans le verset 112 de la 11e sourate, la sourate Houd, « Sois droit comme tu en as reçu l'ordre, c'est-à-dire appelle les hommes à l'amour de Ali. » Dieu appela à la foi en premier, au devoir en second, car la foi est la racine, les devoirs sont ses branches, et la racine précède les branches. Il n'y a de devoir que par la foi, et il n'y a de foi que par l'amour de Ali. La profession de l'unicité divine, le monothéisme, ne se noue que par l'amour de Ali. Tant qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de devoir, et tant qu'il n'y a pas d'amour de Ali, il n'y a pas de foi. Donc, la foi et les devoirs sont l'amour de Ali, la racine et les branches sont l'amour et l'amitié de Ali. » Fin de citation. On comprend que les devoirs religieux n'ont de sens qu'avec et pour l'amour de l'imam, alors que l'amour de l'imam vaut pour lui-même, avec ou sans acquittement des devoirs religieux. Alors si Bolsi semble donc assumer d'une part la divulgation des secrets de la divinité de l'imam et d'autre part la justification de la désobéissance à la loi au nom de l'amour de l'imam, il n'en rejette pas moins sur d'autres le grief d'exagération, roulou, et revendique pour sa part la position du juste milieu. Ceci en rapportant cette parole de Ali. Les meilleurs de mes chiites sont le groupe du milieu, al-Namt al-Awsat, dépassés d'un côté par ceux qui exagèrent, al-Rali, de l'autre, enfin suivis de l'autre côté par ceux qui dédaignent ou qui négligent, al-Tali. Ceux qui exagèrent, dit Bolsi, ce sont ceux qui appellent le vassal, al-Marboub, seigneur, Rab, c'est-à-dire ceux qui font de l'imam un dieu. Et ceux qui dédaignent, eh bien, ce sont ceux qui demandent une preuve pour emprunter la voie de la science de la certitude, c'est-à-dire ceux qui mettent la raison au-dessus de l'amour et qui veulent qu'on leur démontre la sainteté de l'imam, de Ali, laquelle sainteté n'est connue en réalité que par l'amour. Le groupe du milieu, dit-il encore, ce sont ceux qui se séparent par la science de la certitude, ilm al-yaqin, la vision de certitude, ayn al-yaqin, et la vérité de la certitude, haq al-yaqin. Donc là, ce sont trois expressions coraniques interprétées couramment comme désignant, pour la première, la connaissance intellectuelle abstraite, pour la deuxième, la connaissance sensible directe, et pour la troisième, la connaissance mystique, illuminative, extatique, la réunion des trois définissant finalement la gnose ou le irfan. Hafez Rajab Bolsi se réclame encore d'une telle position médiane, d'un amour de l'imam sans excès ni défaut, dans un ouvrage d'exégèse du Coran intitulé « Ad-Dur al-Thamin », la perle précieuse, en revenant sur les deux derniers versets de la première sourate, la Fatiha. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Dans un commentaire qui a déjà retenu l'attention de Pierre Lory et de Mohamed Ali Amir Mouezi, Bolsi écrit « Au sens exotérique, ce par quoi il faut entendre ici la tradition sunnite, au sens exotérique, ceux qui ont encouru la colère divine, al-mardoub alayhim, sont les juifs, et les égarés, dallin, sont les chrétiens. Mais au sens ésotérique, fait le baten, les premiers sont ceux qui se sont comportés comme les juifs et les seconds ceux qui se sont comportés comme les chrétiens vis-à-vis des gens de la sainte famille, Ahl al-Bayt, c'est-à-dire Ali, Fatima et les imams de leur descendance. Le prophète dit à Ali, « Tu es celui autour de qui se produit la discorde. Tu as en Jésus un exemple. Les juifs l'ont haï jusqu'à calomnier sa mère. Les chrétiens l'ont aimé jusqu'à l'appeler du nom de Seigneur. Des hommes t'aimeront qui entreront au paradis grâce à leur amour pour toi. Des hommes te haïront et entreront en enfer à cause de leur haine à ton égard. Et nulle faute ne t'incombera en cela. » Ainsi, ceux qui haïssent Ali ont été assimilés aux juifs et ceux qui l'aiment à l'excès l'ont été aux chrétiens. Ceux qui se détournent de son amour sont ceux qui ont encouru la colère divine, ce sont les métamorphosés de cette communauté et les égarés sont les exagérateurs. Ici, le terme al-mufritun. Et Boursi de conclure, que Dieu maudisse l'exagérateur obstiné comme le négateur envieux. Alors ceux qui pêchent par défaut d'amour pour l'imam sont donc les sunnites qui ne reconnaissent pas l'imamat de Ali et ceux qui pêchent par excès d'amour pour l'imam sont les exagérateurs chiites, les roulates qui proclament la divinité de sa personne comme les chrétiens l'ont fait avec Jésus. On peut toutefois remarquer que si Boursi, à la fin de ce texte, maudit les deux groupes, eh bien, un peu plus haut, il ne voue pas les exagérateurs à l'enfer. Il dit « des hommes entreront en enfer parce qu'ils t'auront haï, et des hommes entreront au paradis parce qu'ils t'auront aimé », et il ne fait pas de distinction entre ceux qui l'auront trop aimé et ceux qui l'auront bien aimé. Donc malgré la symétrie des deux extrêmes, il semble que pour cet auteur, l'excès d'amour pour l'imam soit moins grave que son défaut. Notre second gnostique, Saïd Haider Amoli, est l'auteur d'œuvres mystiques et philosophiques dans lesquelles il soutient résolument la nature théophanique de l'imam, ce qui lui valut d'être taxé, après coup, d'exagération, roulou. Mais au cours de sa vie itinérante entre les lieux saints du chiisme, Saïd Haider Amoli ne semble pas avoir subi de persécution, à la différence de Rajab el-Boursi. Peut-être avait-il prévenu lui-même un tel sort. En rédigeant une épître sous la commande d'un maître de théologie réputé, Fakhr el-Muhaqqiqin el-Hilli, épître dans laquelle, en se basant sur la tradition scripturaire et la raison démonstrative, il critique l'amour excessif et la divinisation de l'imam, synonyme d'exagération roulou. Ce texte s'intitule « La levée du différend et de la dispute » (Raf al-Khilaf ou al-Munazara) et vise à établir la concorde et l'unité entre les chiites. Son objet est une question de polémique historique apparemment éloignée de notre sujet, mais on va voir que ça le rejoindra rapidement, celle de l'attitude passive ou quiétiste de l'imam Ali face aux trois premiers califes. La question est la suivante, pourquoi a-t-il laissé ses adversaires prendre le pouvoir sans se soulever contre eux et combattre pour son droit, lui dont le courage et la force, témoignés lors des batailles du prophète, étaient légendaires et dont la légitimité provenait du prophète lui-même? Cette question, elle fut apparemment objectée à l'imam Ali déjà de son vivant par des partisans qui allaient ensuite se retourner contre lui, et elle continua à être opposée aux imamites au cours des siècles par les théologiens sunnites. Haider Amoli, en se basant sur des déclarations de l'imam Ali, répond que celui-ci était tout simplement impuissant, ajez, à faire valoir son droit. Mais deux types d'adversaires refusent d'admettre cette impuissance, rujz. Les théologiens sunnites affirment que Ali avait la capacité de se soulever contre les premiers califes, mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il reconnaissait leur légitimité et ou parce qu'il manquait de courage. Les exagérateurs chiites, les roulates, eux, pensent que l'imam ne peut être impuissant car l'impuissance serait contradictoire avec son impeccabilité, isma. Selon Haider Amoli, les premiers sont égarés par leur ignorance ou leur haine pour l'imam, et les seconds sont égarés par leur amour même pour l'imam. Pour notre auteur, en effet, l'impeccabilité de l'imam, la isma, n'implique pas, comme le voudraient les roulates, l'omnipotence pratique. mais consiste en une pureté absolue et constante de l'intention, celle de faire son devoir conformément à sa mission. L'impeccabilité se définit aussi, pour Haider Amoli, par une perfection des vertus au sens de l'éthique aristotélicienne. Alors, l'éthique aristotélicienne qui, probablement parvenue à lui, à partir du philosophe fameux Nasir ad-Din Tusi. L'imam, dit Haider Amoli, possède au plus haut point les quatre vertus cardinales de la science, du courage, de la tempérance et de la justice. Et toute vertu se définit, vous le savez chez Aristote, comme le juste milieu entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut. Ainsi, le courage, qui doit être attribué à l'impeccable, est le juste milieu entre la lâcheté, qui est le vice par défaut, et la témérité, qui est le vice par excès. La lâcheté consiste à renoncer quand on est en capacité de faire son devoir, et la témérité à exposer inutilement sa personne à la destruction pour faire un devoir que l'on se condamne à ne pas pouvoir réaliser. Or, les deux groupes opposés, sunnites et chiites exagérateurs, dit Haider Amoli, parce qu'ils ignorent la vraie signification du courage, comme juste milieu, attribuent à l'imam les vices de la témérité et de la lâcheté. Les sunnites, refusant l'impuissance comme l'impeccabilité de Ali, prennent sa passivité pour de la lâcheté. Les exagérateurs, refusant que l'imam impeccable puisse être impuissant, voudraient qu'il fût téméraire en affrontant le monde entier. La vérité pour Haider Amoli est que Ali fut parfaitement courageux en adoptant une attitude quiétiste face aux trois premiers califes parce qu'il était tout simplement impuissant à se soulever contre eux. En agissant ainsi ou en s'abstenant d'agir, il n'a été ni lâche ni téméraire, il n'a manqué en rien à son impeccabilité. Amoli entend donc montrer aux exagérateurs chiites, pour les sauver de leur erreur funeste et rétablir la concorde entre chiites, que l'impuissance et la faiblesse de l'imam sont compatibles avec son impeccabilité et lui sont même inhérentes. Ali et ses successeurs furent presque toujours dominés, opprimés par leurs ennemis, mais ils n'en sont pas moins des guides impeccables dont l'amour et la connaissance sont obligatoires autant que nécessaires au salut. D'ailleurs, remarque Haider Amoli, même la haine sacrée et la dissociation des ennemis de l'imam, avec toutes les malédictions prononcées contre ses ennemis, n'ont de sens qu'en admettant l'impuissance de l'imam à agir contre eux. Dès lors, de même que la raison doit reconnaître cette impuissance, l'amour de l'imam doit aussi l'intégrer. L'imam doit être aimé pour sa finitude et son humanité, non pour sa divinité. Cet amour doit être par suite modéré, non pas excessif. A l'inverse, l'exagération ruineuse consiste à aimer l'imam comme un être divin plutôt qu'humain. Cette exagération est une faute envers l'imam, dit Amoli, car elle lui attribue un manquement à son devoir. En effet, si l'imam avait été capable de combattre pour son droit et d'éliminer les usurpateurs, il aurait dû le faire conformément à la volonté divine. En voulant conserver l'impeccabilité de l'imam en un sens absolu, les exagérateurs ne font en réalité que la dénaturer et la corrompre. C'est pourquoi Haider Amoli écrit « En voulant purifier l'imam de ses attributs divins, ils introduisent En voulant purifier l'imam de ses attributs humains, ils introduisent en lui les attributs divins. Ceci est le comble de l'hostilité par la domination de l'amour, la quintessence de l'imperfection dans la perfection même. » Donc le comble de l'hostilité par la domination de l'amour, on ne saurait mieux dire que trop aimer l'imam revient à mal l'aimer. Notre auteur fait ici profession d'un chiisme modéré, un chiisme du juste milieu, en ajoutant « la droite doctrine au sujet de l'imam consiste à le placer au rang de l'humanité et non au rang de la divinité, au niveau de l'imama et non au niveau de la prophétie ou de la mission des envoyés, risala, car l'imam n'est ni un dieu ni un envoyé. » Pourtant, on sait que Haider Amoli n'hésite pas ailleurs à attribuer des caractères divins à l'imam. Alors, on peut se demander si, il ne fait pas ici que dissimuler les secrets de l'imam, exaltés, nous l'avons vu, par Hafez Rajab el-Bursi. Alors plutôt que de supposer un écrit de dissimulation, de taqiyya, je postulerai la cohérence de la pensée de Haider Amoli. Ce qu'il critique ici comme exagération consiste moins à affirmer les attributs divins de l'imam qu'à nier ses attributs humains, parmi lesquels, au premier chef, l'impuissance. Tel est le fait d'un amour excessif, qui ne peut admettre la faiblesse humaine de l'aimer, qui l'aliène en l'idéalisant ou qui s'en détourne en reconnaissant cette faiblesse. Pour notre gnostique, l'amour de l'imam comme homme parfait, impeccable et infaillible doit donc d'abord reconnaître son humanité, sans doute pour pouvoir aimer ensuite sa divinité de manière juste. Et si cet amour est bien la finalité de l'obéissance au prophète, comme il est le moyen de la connaissance de Dieu, il ne peut et ne doit pas se substituer au devoir envers Dieu et son prophète, c'est-à-dire à la religion exotérique. Et Haider Amoli rejoint ici, à l'encontre de Bursi, la critique de l'antinomisme par le sixième imam. À l'amour du croyant pour l'imam, Haider Amoli applique donc l'éthique du juste milieu déjà appliquée au courage de l'imam lui-même. L'amour vertueux de l'imam, du croyant pour l'imam, est lui aussi un juste milieu entre le défaut et l'excès. Et de citer la tradition de l'imam Ali, que j'ai évoquée tout à l'heure en introduction. Deux types d'hommes se damnent à mon sujet, ceux qui m'aiment à l'excès et ceux qui me haïssent. Comme Rajab el-Bursi dans son exégèse de la première sourate du Coran, Haider Amoli renvoie dos à dos les exagérateurs chiites et les théologiens sunnites comme péchant respectivement par excès et par défaut dans l'amour de l'imam. Si le cas des seconds, les théologiens sunnites, semble perdu d'avance, celui des premiers, les exagérateurs chiites, est tragique car il s'égare sur la voie même du salut qui est l'amour de l'imam. La démesure ou l'hubris renverse leur amour en hostilité, la perfection en imperfection, la promesse de salut en menace de perdition. A l'inverse, c'est la justice comme équilibre, adl, qui détermine le véritable et salvifique amour de l'imam. Haider Amoli écrit « La limite du juste milieu dans la vénération de l'imam » et d'en faire un imam, non pas un dieu, ni un prophète, ni un envoyé, ni aucun être plus éminent. La limite du juste milieu dans la justice, à son égard, c'est d'en faire un homme courageux, qui ne soit ni téméraire ni lâche, car tout cela serait un vice et non une vertu, une imperfection et non une perfection. C'est pourquoi l'imam dit « nous sommes la position du milieu », littéralement le coussin, le siège du milieu, « an-numlouqa al-wusta », et la voie droite, sirat al-mustaqim, expression coranique déjà rencontrée. Car en raison de la perfection de leur justice, les imams ont toujours observé le juste milieu véritable des mœurs ou de l'éthique, qui est la voie droite elle-même. La justice à l'égard des imams consiste donc, pour Haider Amoli, à connaître leur perfection morale comme médiété, juste milieu, et l'amour requis à leur égard découle de cette connaissance, est à l'image de son objet. C'est donc un amour modéré et raisonnable, quoique exclusif et inconditionnel. Autrement dit, si l'exagération est une hubris ou une déraison de l'amour, le véritable chiisme, pour Amoli, peut se définir comme une sagesse de l'amour pour l'imam. Alors pour conclure, si le chiisme est foncièrement la religion de l'amour de l'imam, cet amour salvateur n'est pas dénué d'ambivalence. D'abord parce qu'il s'accompagne d'un pendant négatif, la dissociation ou la haine des ennemis de l'imam, la bara'a. Ensuite, parce qu'il comprend de manière inhérente le risque d'un excès et d'un renversement en son contraire, ce qui serait donc le roulou. Enfin, parce qu'il pose la question de l'obéissance à la loi, l'antinomisme, ibaha. La gnose chiite s'est efforcée de définir et de pratiquer le juste amour de l'imam, d'être une sagesse de l'amour pour l'imam, à égale distance des deux vices, du défaut et de l'excès. Mais comme Bursi et Amoli en étaient bien conscients, le premier en l'assumant et le second en le prévenant, la connaissance de l'imam comme homme parfait court toujours le risque d'être assimilée à de l'exagération, la sagesse de l'amour à une folie ou à une faute. L'amour de l'imam reste ainsi, et même pour le gnostique, une voie de salut n'allant pas sans péril. Je vous remercie.